ce 6 novembre, à Rieux-Volvestre, à la salle du Plan d'eau, il y aura une conférence, une grande conférence avec un économiste, François Morin. Cette conférence est organisée avec PUP en vol, c'est-à-dire Petite Université Populaire en Volvestre. Et donc, nous avons la chance d'avoir Bernard Ferrand et Jean-Pierre Soula pour justement nous parler de cette conférence. Messieurs, bonjour. L'heure est grave, n'est-ce pas ?
Bonjour, l'heure est grave. Mais avant la gravité, oui. Il y a quand même la bonne nouvelle qu'une petite université en Volvestre est née. Ça, c'est le cadre dans lequel s'inscriront plein d'éléments divers sur différents sujets.
Oui.
Et je pense que cette petite université populaire, ça vient du désir d'un certain nombre de personnes du Volvestre, aussi bien de Carbone de Rieux que de Montesquieu et des alentours,
oui,
d'organiser un cycle de conférences, ainsi que ça a été fait dans le début de l'Ariège, autour de campagne sur Ascastex. Mm-hmm. Nous avons trouvé que le modèle était excellent, et donc on a souhaité le faire pour le mettre plus proche,
oui,
du Volvestre. Philippe Fréchet, qui est le monsieur qui a commencé la pupale de l'Ariège,
oui,
et de la Rise et de la Lèze, a eu la gentillesse de nous donner son savoir-faire et de nous suggérer d'inviter François Morin, qu'il connaît bien, pour faire la conférence inaugurale de la pup en vol.
D'accord.
Voilà.
Donc, cette grande conférence, ça s'appelle la Grande Saignée. Vous allez abattre quoi ?
Alors, la grande saignée, tout simplement parce que dans les thèmes de recherche de François Morin, la préoccupation, ses compétences l'ont porté très très rapidement vers l'étude des mouvements monétaires financiers. Mm-hmm. Il a été d'ailleurs pendant plusieurs années au conseil de gouvernance de la Banque de France. Il a écrit beaucoup d'ouvrages et il vient, oui, de publier cet ouvrage sur la grande saignée, sur le souci qui est partagé par beaucoup de monde du niveau d'endettement global dans le monde, que ce soit les États, les ménages ou les entreprises.
Mmh.
Ce montant d'endettement qui se fait majoritairement sous forme d'obligations atteint des sommes colossales, des pourcentages colossaux de la richesse mondiale, et la question qui est posée, est-ce qu'on pourra rembourser ?
Oui.
Voilà. Alors, ne pas rembourser, c'est une catastrophe. Et rembourser, c'est devenu une charge absolument insurmontable pour des ménages, on l'a vu aux États-Unis récemment, mais aussi pour des États ou pour des entreprises. Je pense qu'on va y revenir.
Oui. Pendant longtemps, justement, on disait que c'était l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la France qui allaient d'abord faire le château de cartes.
Alors, le château de cartes, c'est vrai qu'on parlait beaucoup en Europe de ces,
oui,
pays qui étaient très endettés, mais actuellement, le pays le plus endetté au monde, ce sont les États-Unis.
Mm-hmm.
Les États-Unis doivent au monde entier des dizaines de 1 000 milliards de dollars.
Ah oui.
C'est colossal.
Oui.
Mais la confiance de beaucoup de gens dans le monde est toujours portée, lorsque tout va mal, vers les États-Unis. C'est, mmh, aussi leur force. C'est pour cela qu'ils résistent.
D'accord.
Donc, pour revenir en Europe, c'est vrai que lorsqu'on voit, il faut bien distinguer la dette des entreprises,
oui,
la dette des ménages, la dette privée,
oui,
et la dette des États.
Mmh.
Lorsqu'on parle de l'Europe, on parle de l'endettement des États. En disant, par exemple, la Grèce est extrêmement endettée, c'est exact. Elle a, pour donner une idée, un ordre de grandeur, elle a pratiquement 3 années de sa richesse en endettement qu'elle doit au reste du monde. Bien sûr, elle ne pourra jamais le rembourser.
Mmh.
Donc, que fait-on ? Ces titres d'emprunt obligataires, je crois qu'il faut les redéfinir, l'emprunt obligataire. Un titre d'emprunt obligataire, c'est que le débiteur, celui qui emprunte, s'engage à rembourser un jour, 5 ans, 10 ans, 20 ans, et d'ici là, de rémunérer à un certain taux cet emprunt. Le problème, à l'échéance, c'est ce qu'il peut rembourser. Alors, en ce qui concerne les États, en Europe, ils ne peuvent pas rembourser la France, l'Allemagne, comme la Grèce ou l'Italie.
Mmh.
Qu'est-ce qu'ils font ? Que faisons-nous ? on emprunte de nouveau, de quoi rembourser, et la pierre roule oui. et continue à rouler.
On fait le trou jusqu'où... pour faire un trou.
Alors, c'est le débat, et c'est ce qu'annonce, et c'est ce que prévoit François Morin, que certains peuvent partager ou critiquer. C'est que cela ne peut pas durer indéfiniment.
Bien sûr.
Comme on dit, les arbres ne vont pas toucher le ciel. C'est un adage boursier. Mmh. Donc, à un moment donné, il y aura un retournement. Mmh. C'est-à-dire que la valeur de ces titres qui s'achètent, qui se revendent, ou à l'échéance de remboursement, eh bien, les débiteurs ne pourront pas faire face. Et donc, la valeur de ces titres s'effondrera. Mmh. Bon, autour de nous, on l'a vu. Il y en a même des États qui l'ont organisé. L'Argentine, en 2001, elle a organisé le phénomène que les créanciers avaient perdu 50%, 70% de ce qu'ils devaient toucher. Et c'est ça l'idée, oui. François Morin. À un moment donné, il faut l'organiser, cette défaillance du débiteur, au lieu d'attendre qu'elle se produise, qu'elle se propage comme un feu en faisant perdre toute la confiance.
Mmh. Mmh. Toute la zone euro est touchée. Si je comprends alors, bien tout.
Ce mais que toute vous avez... la zone euro est touchée. Vous savez, le pays le plus endetté en Europe, certes, c'est la Grèce, mais c'est un cas très particulier finalement.
Oui.
C'est l'Allemagne le second.
D'accord.
Le troisième, c'est l'Italie. Et puis vient la France. Qui parle de la dette allemande ?
Oui, c'est vrai.
Personne. Mmh. Parce qu'elle inspire confiance en ce monde perturbé. Donc, on parlera de la dette italienne, espagnole, de la Grèce, oui. de la France un peu, mais le taux d'endettement de la France n'est pas énorme. On est à 90% de la richesse nationale. Oui, on peut secouer la tête, oui, je vois.
Ça fait beaucoup
je
quand
vois,
même.
Je vois, derrière la vitrine, dans le local technique, je vois.
Ça fait beaucoup.
Mais ça fait beaucoup. Mais dites-moi, lorsque vous avez acheté votre maison, votre appartement, vous vous êtes endetté pour combien de fois votre revenu annuel ?
On y est tous passés.
On est tous passés dans une phase dite de surendettement. Oui. Oui. Souvent, les gens s'endettent à 10 fois leur revenu annuel. Mm-hmm. Eh oui, mais pour certains, voilà. Et donc, ce sont des choses qui ont quand même quelque chose de relatif. Ce que l'on sait et ce que l'on voit, c'est que on ne pourra pas rembourser tout ça. Les oui. États ne pourront pas, parce que rembourser tout cela, ça veut dire ponctionner et trouver l'argent.
Oui, oui,
mais
oui.
si vous ne remboursez pas, vous appauvrissez aussi oui. tout le monde.
Alors qu'est-ce qu'il se passe si un pays ne peut plus payer, qu'il ne peut plus ni rembourser, qu'il ne peut plus rien faire ? Il disparaît ?
Non. Actuellement, dans le droit international, la faillite d'un pays n'entraîne pas sa mise sous tutelle ou que les créanciers puissent juridiquement en prendre possession.
D'accord.
On ne peut pas, bien qu'il y a des tentatives en particulier aux États-Unis, on ne peut pas attaquer tel pays. Il dit, tu ne rembourses pas, donc tu as perdu le pouvoir, je suis propriétaire du pays. Mm-hmm. Je mets une petite précaution quand même, parce qu'en Argentine, sans vouloir rentrer dans le détail, en 2001, l'État argentin a apuré sa dette, mais il a cédé un certain nombre de choses. Par exemple, il a cédé les impôts dans certaines provinces, en leur disant les impôts ne seront pas payés au gouvernement de ces provinces, mais elles reviennent à tel fonds financier qui va dessus se rembourser partiellement. Voilà.
D'accord.
Alors, nous n'en sommes pas là.
Oui.
Mais si jamais un pays ne paie pas sa dette, voilà. Tous les gens qui ont une assurance vie, 85% des ménages français ont une assurance vie. Le montant total de l'assurance vie en France est supérieur à 1500 milliards. C'est donc le produit financier le plus banal. Vous faites des économies. L'État vous encourage par des avantages fiscaux sur les droits de succession, pour inciter à ce que vous fassiez ces économies. Et cet argent, votre banquier ou votre société d'assurance vous dit tout simplement qu'il s'en charge de le faire fructifier, sans vous parler de la façon dont il le fait. Fait-il ? Eh bien, il met et il achète des emprunts obligataires, c'est-à-dire qu'il prête l'argent. Alors, il achète des bons trésors, 400, 500 milliards en France. Il achète des obligations d'entreprise, 200 milliards, c'est la situation actuelle. Et puis ensuite, en France, Mais ensuite, il achète en Allemagne, peut-être aux États-Unis, certainement. Et puis, un petit peu de grec, parce que le grec, ça rapporte sur le Mont Marais. Hein. Comme ils ne peuvent pas se refinancer, ils payent bien si on leur prête l'argent. Hein. Et donc, s'il y a une faillite, ces plans d'assurance vie, ce produit d'épargne français, sa valeur s'effondre. Donc, les gens, ils ont dit, on a mis de côté 20, 30, 40 000 euros. C'est assez banal, il faut le savoir quand même. Hein, si vous causez avec un banquier, eh bien, on leur dira, ils vont à la banque, leur dira, oui, on peut le fermer, votre plan, on vend tout. Voilà, il reste plus que 20 000 euros. Vous croyez que c'est neutre ? C'est neutre, ce n'est pas neutre économiquement, ce n'est pas neutre psychologiquement. Oui. Et psychologiquement, ça met un monde dans une incertitude énorme.
Oui, oui, oui. Alors, est-ce que cette crise dont tout le monde parle, parce que ce sont ces lettres qui font le tableau pour tout le monde, pour tout un chacun en tout cas, est-ce que cette crise est l'arbre qui cache la montagne ?
Ça dépend quelle est la montagne, c'est-à-dire où va le monde, si je
comprends
bien.
La montagne, moi je parle de cette énorme bulle.
Eh bien, cette étonne bulle, soit on pense qu'elle est vraiment réelle, extrêmement dangereuse, c'est l'idée de François Morin. La deuxième idée, c'est de dire, au lieu d'aller droit dans la catastrophe et on subira tout, on sera saigné,
Ben,
peut-être qu'on pourrait commencer dès aujourd'hui à l'apurer, même d'une manière un petit peu brutale, autoritaire. Je reprenais au début des questions de l'interview en ce qui concerne l'Argentine. Eh bien, pourquoi ne pas, dès à présent, déclarer que tel ou tel pays, la valeur de sa dette était remise ou diminuée. Il doit 100 au reste du monde, et bien on lui dit, tu dois plus que 50. Voilà, essaie de t'engager là-dessus. C'est-à-dire, bien sûr que cela a des effets, mais au moins, on fait des petites saignées pour éviter la grande.
D'accord.
Parce que la grande, c'est ce que je dis, cet effondrement où on n'aura plus confiance dans les banques, qui sont nécessaires à la vie économique. Du moins, tout le monde le pense, semble-t-il. Ensuite, le sentiment d'avoir quelque chose, de la richesse, de l'épargne, de pouvoir aider les enfants, tout ça peut disparaître un instant. Vous vous rendez compte des conséquences ? C'est vrai que c'est très violent. Et ça peut entraîner beaucoup de choses très graves. Donc l'idée de François Morin, c'est de dire, prenons le chemin de régler ça maintenant, si nous pouvons.
Alors qui peut faire ce chemin ? Qui peut le prendre ? Tout un chacun ?
Ce chemin, c'est la décision collective des organismes, l'Europe, les gouverneurs de banques centrales qui le font d'une certaine façon, effectivement le FMI, les États les plus riches, dont nous faisons partie des États les plus riches, la France.
Oui.
Donc, pour répondre à tout ça, d'une manière simple, et techniquement, moi je ne suis pas de très grande compétence, je crois que c'est vraiment la conférence du 6. Il faut venir à la conférence du 6. Et on pourrait parler aussi de la conférence et de François Morin, je pense.
Oui. Donc, pourquoi c'est si grave, vous savez, un petit peu, Jean-Pierre, ou pas la crise, cette bulle, ce moment où nous sommes. Est-ce que c'est aussi le début de la fin d'une humanité ?
Ah, ça, j'espère bien que non. Mais c'est peut-être une mise en garde salutaire. On sait que dans l'humanité, lorsqu'il y a des difficultés, bon, soit il y a un effondrement total, soit il y a une prise en compte de ces difficultés et des tentatives pour les régler. Avec la position que prend François Morin, donc il nous suggère une façon de traiter cette grosse difficulté. Tout à l'heure, on parlait d'une certaine maladie. Écoutez, c'est un petit peu la même chose. On est au courant de la maladie du monde. Alors, soit on ne fait rien, soit, et on attend que ça éclate sans avoir pris de garde-fou, soit il est possible, en concertant donc, comme le disait Bernard, toutes les autorités qui peuvent avoir du poids pour nous mettre dans cette direction.
Oui.
Et alors là, on a une solution. Mais, comme le disait Bernard, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de dire aux gens, vous allez perdre quelque chose. Si on vous le dit, si on me le dit, mince, on va commencer un petit peu à râler.
Oui.
Mais si on nous présente l'état de la difficulté et si on nous montre que une difficulté énorme peut être évitée en acceptant une difficulté de mesure plus faible, alors peut-être ça peut nous faire réfléchir et peut-être éviter justement d'aller dans le mur, comme vous le suggériez tout à l'heure.
Mmh. Quel est le chef d'État ou quel est l'homme qui saura taper du poing sur la table et dire « ça sera comme ça » ?
En ce qui me concerne, je suis incapable de répondre à cette question parce que je ne crois pas à l'influence d'un seul homme. Je pense que c'est des décisions qui s'en jouent vraiment collectivement entre les pays riches.
Tout à fait.
Où les grands patrons.
Mais il va falloir quand même que cette idée arrive et que quelqu'un la propose. C'est pas un groupe qui va proposer une telle idée, parce que chacun va tirer le panier à soi.
Oui, il y a la tendance à ramener le panier à soi, à essayer de perdre le moins possible pour représenter l'État ou une partie de la population, c'est sûr. C'est un peu, mais je pense qu'il y a quand même dans nos dirigeants ou dans beaucoup de dirigeants un sens de l'intérêt général et de l'intérêt mondial. Mmh. Voilà. Moi, je crois qu'il y a beaucoup d'hommes de qualité. On l'a bien vu dans notre histoire, et dans notre histoire récente, et en particulier en Europe. La construction européenne, c'est quand même des gens qui avaient une vision d'avenir, que ce soit le général de Gaulle, que ce soit Adenauer, que ce soit Mitterrand, que ce soit Kohl. C'est des gens qui ont eu des visions globales. À un moment donné, lorsque la difficulté est évidente, je crois qu'il y a ce qu'il faut.
Oui, mais c'était des hommes encore.
Je crois qu'il y a ce qu'il faut. Moi, de ce point de vue, je suis optimiste dans la nature humaine.
Quelle serait la mesure la plus efficace contre cette situation de rouleau, de vague, de tsunami ?
La mesure la plus efficace, c'est qu'il faut commencer à diminuer la valeur réelle d'un certain niveau d'emprunt. C'est-à-dire faire et annoncer que tel pays, telle banque, etc., ne pourra pas tout rembourser. Et dire, ben là, il y a une perte sèche. Voilà. Il faut commencer la petite saignée.
Voilà, c'est ce que...
Mais je te donne un exemple. Quand on parle de l'endettement des États, la France a un endettement public de 1800 milliards. Un peu plus actuellement. Les assurances vie, ces produits financiers préférés des Français, c'est un peu plus de 1500 milliards. Bon. Si on dit, la valeur des titres, des obligations détenues par les particuliers à travers leur assurance vie sur l'État, on la divise par deux. On va faire tomber l'endettement global de 1800 à 1200 milliards, par exemple. C'est plus du tout les mêmes ratios. C'est plus du tout la même charge d'intérêt pour le gouvernement et pour le budget d'État. Parce que cette charge d'intérêt, elle est très proche du montant accordé au ministère de l'Éducation nationale.
Mm-hmm.
Bientôt, on va consacrer l'autre poste de dépenses budgétaires le plus important, c'est le remboursement de la dette. On s'en sort plus, là. Il faut être, tu vois. Donc, voilà. Une saignée. Comment le faire passer auprès des gens, de ceux qui ont les plans d'assurance vie ? Difficile. Il faudra bien le faire.
Mais il est certain que s'il y avait une action collective internationale, ce serait beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Si en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, etc., il y avait ce même... Et aux États-Unis, et dans d'autres pays qui ont des économies... raisonnable. Il y avait donc ce consensus, alors ce serait beaucoup plus simple à faire passer. Et après tout, qui nous dit qu'il n'y a pas dans les antichambres de nos dirigeants, quels qu'ils soient, des gens qui commencent à penser à ça? Je me souviens avoir entendu il y a quelques années des conférences sur la prospective. C'était des choses hallucinantes, je veux dire, d'intelligence et de... Mais après tout... peut-être que prospectivement, il y a déjà des gens qui sont en train d'imaginer des scénarios de désendettement, de saignée. Ce serait tout à fait logique, vu quand même le niveau de conscience des gens qui sont au pouvoir de façon générale et qui ne veulent pas que le monde parte en fumée.
D'accord. Est-ce qu'il faut réserver pour ces conférences ? Est-ce qu'il faut s'inscrire ? Comment ça se passe ?
Ça se passe de façon très simple. On arrive à, on va dire, 10 minutes avant le 20h pour prendre une place.
Oui.
Et très simplement, on s'assied. Il n'y a pas de réservation. On a prévu justement cette salle grande de, du plan d'eau parce qu'on peut recevoir une bonne centaine de personnes. Donc, il n'y a pas de souci à se faire pour cette conférence-là.
D'accord. Donc, voilà. C'est le 6 novembre.
Le 6 novembre.
C'est à 20h à la salle du plan d'eau. C'est la grande
salle. De Rieux-Volvestre, la grande salle, à côté de la piscine.
Voilà.
Et il y aura un système de fléchage. Donc, tout le monde sera bien orienté. Il n'y a pas trop de soucis à se faire.
Est-ce qu'on pourra poser des questions à M. François Morin ?
À la fin, c'est ça. Le schéma que nous retenons pour nos conférences, c'est de dire que le conférencier a à peu près 45 minutes pour exposer son propos, suivi d'une quinzaine de minutes de questions.
D'accord.
Et, chose importante, ces questions peuvent continuer après, lorsqu'on partage le croustette tiré du sac, puisqu'on amène chacun un morceau de saucisson, du fromage, des choses comme ça.
D'accord.
Et cette demi-heure qui suit permet de continuer les échanges, et puis de tisser également un réseau de connaissances locales.
Mmh. Vous vouliez ajouter quelque chose, Bernard ?
Non. Merci Jean-Pierre. Je pensais qu'il avait oublié le croustette, parce que moi je suis toujours porté sur le croustette.
Alors, joute avec le croustette, qu'est plavou.
Donc, si on veut avoir des renseignements, on peut aussi aller voir votre site.
Oui.
www.pupenvol.fr.
Oui. Ou si quelqu'un veut me contacter directement, il y a mon téléphone, c'est le 06 27 74 75 01, donc Jean-Pierre Soulin, et je peux réexpliquer un certain nombre de choses, avec grand plaisir.
Vous avez déjà pensé à une prochaine rencontre ?
Alors, l'idée, il y a plusieurs rencontres qui sont prévues, donc il y en a au moins deux bien calées, c'est en décembre.
Oui.
Et celle de janvier. Alors en décembre, c'est une rencontre qui sera conférencier, c'est Madame Cécile Sarraï, qui s'occupe en Ariège des monuments appartements département.
Et très calée d'ailleurs, je la connais.
Oui. Ah bien.
Et qui viendra nous parler de la transformation, de la récupération, de l'utilisation des rites païens par les religions actuelles. Ça sera tout à fait d'actualité.
Entendu. En attendant, c'est ce 6 novembre qu'il faut venir à Rieux à la salle du plan d'eau. C'est à 20h, la grande saignée, c'est une conférence avec M. François Morin et c'est un grand économiste.
Absolument.
Absolument.
Merci messieurs.
Merci.
Merci Gisèle.